Bonjour, bonjour. Je vois des gens qui sont revenus de vacances. Vous avez tous ceux qui sont revenus de vacances, ils ont des mines réjouies. Vous êtes reposés, c'est bien, c'est super. Vous avez eu un bon temps. Nous allons continuer notre thématique sur l'évangile de Marc. Et nous arrivons à la fin de cet évangile. J'avais pour ma part à vous parler sur les trois derniers chapitres, 14, 15 et 16. Et comme chacun de nous, nous l'avons lu, hein, depuis que nous avons commencé, nous avons lu l'évangile de Marc, nous l'avons apprécié, nous l'avons mâché, etc. Donc, je voudrais simplement, en fait, donner toute la gloire à Dieu pour ce que nous sommes en train de vivre. L'évangile de Marc est un évangile court et qui parle finalement quelque part aux Occidentaux, vous les Occidentaux. Parce que l'évangile de Marc ne présente pas tous les aspects, on dira, juifs, qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, par exemple. L'évangile de Marc est plus concis, et vous aimez ce qui est concis, vous les Occidentaux. Et donc, vous voyez qu'avec cet évangile de Marc, il est peut-être court, mais il est vraiment puissant. Il est vraiment puissant. Est-ce que vous avez apprécié cette lecture? Est-ce que vous aimez lire et relire cet évangile? C'est vraiment important en fait non seulement de s'imprégner, mais vraiment en fait de s'approprier ces textes, parce que en fait notre bouche parlera du trop-plein de notre cœur. Et si nous avons suffisamment finalement la parole de Dieu dans nos cœurs, eh bien en fait dans notre manière de vivre, nos manières de réagir, cette parole en fait elle sera agissante. Alors, moi j'ai été personnellement émerveillé par la richesse des découvertes qui ont été que moi-même j'ai fait encore dans ce texte de Marc. Au travers de ce voyage dans l'Évangile, le Seigneur en fait a renouvelé mon intelligence au sujet de la personne de Jésus. Hein? Jésus en tant que concepteur de l'Église. Jésus est non seulement l'Église lui appartient, mais quand il est venu sur cette terre, qu'il a marché avec ses disciples, en fait, il a vraiment semé les prémices, il a semé quelque part en fait une semence qui devait donner une matrice, qui devait donner un modèle. Et si nous nous accrochons, si nous nous vraiment nous restons collés à la personne de Jésus, en fait cette église elle va être à l'image de Jésus, d'être belle, elle va être puissante parce que Jésus a été puissant, elle va être prophétique parce que Jésus était prophétique. Elle va être pleine de miracles parce que Jésus est un homme de miracles. Et elle va être à l'image de Jésus. Et si nous voulons véritablement en fait goûter aux actes des apôtres et toutes les autres promesses de la parole de Dieu, il nous faut absolument nous coller à la personne de Jésus, à connaître sa pensée, à savoir ce qui le mettait en marche afin de nous-mêmes devenir des petits Christ. En fait, au travers de l'Évangile, on prend conscience que ce que Jésus a fait, eh bien, c'est ce que l'Église devrait faire. Amen, dirent-ils. Wow! Eh bien, on veut le faire, Seigneur. Autrement dit, en Jésus, eh bien, il est contenu le sens de tout ce que nous faisons. Et si, effectivement, ici, eh bien, il y a l'amour qui jaillit, c'est que Jésus prend beaucoup de place. Si il y a la compréhension, s'il y a vraiment en fait une liberté christique, eh bien effectivement c'est qu'il règne. Mais si au contraire on est dans la timidité, si on est dans la peur, si on est dans la crainte, si on ne sait pas trop où s'asseoir, c'est que Jésus ne prend pas encore assez place. Non pas en tant que critique, mais en tant qu'espérance. On veut cela. Et puis, comment on pourrait dire ça, quelle est la mission que Jésus a reçue? Eh bien, on voit dans Ésaïe 61, les versets 1 à 2, c'est la première. Voilà. Voilà, elle est là. Vous voyez, la mission que Jésus a reçue, on voit l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Ça, c'est la mission que Jésus a reçue. Jésus a transmis quelque chose aux disciples. Et les disciples, quand on voit la première église, après donc la Pentecôte, eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été consacrés par onction. Et l'onction est la marque qui démontre que l'on a reçu les dons du Saint-Esprit. Si on a reçu les dons du Saint-Esprit, on a un rapport les uns aux autres qui n'est pas comme dans le monde. Et nous avons cette capacité et ce plaisir d'annoncer la bonne nouvelle, de parler de Jésus. On n'en a jamais assez de parler de Jésus si on est sous l'onction. Et puis, on amène cela aux pauvres. Les pauvres, ce sont les malheureux, les gens qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, les gens qui sont désespérés, les gens qui ont de la peine tous les jours avec ce qu'ils ont à vivre. On leur apporte cette bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle les transforme. Et il y a des personnages dans les évangiles qui ont reçu cette bonne nouvelle. Je pense à la Samaritaine, elle a été transformée. Je pense à l'homme de Gadara, et il a été transformé. Et puis, il a été envoyé pour guérir, et Jésus a guéri des gens. Et je pense que moi aussi, j'ai guéri des gens. Waouh! Et vous, avez-vous guéri quelqu'un? Waouh! Waouh! Voilà la marque de l'Église. Alors, on peut, dans ces versets, eh bien, il est contenu la mission de Jésus. Jésus, en faisant de nous des disciples, nous transmet en même temps sa mission. En conséquence, nous pouvons dire avec Jésus que l'Esprit du Seigneur est sur nous. On s'approprie cette parole. L'Esprit du Seigneur est sur nous parce qu'il nous a consacrés par onction. Et on a vu la dernière prédication, il nous a été proposé d'être des chrétiens de nom ou des chrétiens d'onction. Des chrétiens d'onction. Et afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En proposant ce thème, eh bien, il y a de la part de Dieu le thème, donc l'évangile de Marc. Dieu avait à cœur, pour nous, l'Église de la paroisse de Carouge, il avait le désir que nous voyions qui est Jésus, qu'on découvre d'une nouvelle manière. Parce que des fois, on connaît Jésus, de manière intellectuelle, voyez. Des fois, on connaît Jésus parce que la parole de Dieu nous parle de Jésus. Mais en fait, ce que Dieu aimerait que nous ayons comme relation à Jésus, c'est un cœur à cœur. C'est d'avoir une connaissance de Jésus comme si c'est un ami que je connais, avec lequel je parle tous les jours, et qui me met en mouvement. Et pas une connaissance livresque, une connaissance respectueuse, une connaissance où on honore, mais on ne bouge pas. Jésus est venu nous révéler des vérités spirituelles. Est-ce qu'on les met en action? Afin de nous faire entrer dans notre appel, nous avons tous un appel. Il n'y a pas que le pasteur qui a un appel d'être pasteur. Vous avez votre appel à être qui le Seigneur, vous avez chacun une destinée en Christ. Nous avons tous une destinée. Et nous ne sommes pas juste, pour certains, ingénieurs ou maçons, non. Nous avons une destinée. Et il nous faut trouver cette destinée afin de pouvoir véritablement, en fait, répondre à l'appel que Jésus, que Dieu a mis sur notre cœur. Voilà. Donc, je disais que j'avais les chapitres 14, 15 et 16 à vous partager, mais l'évangile de Marc étant peut-être court, mais plein d'anecdotes, plein de petits récits, je me suis en fait cantonné à trois passages dans le chapitre 14. En fait, pourquoi que le 14? Parce que c'est pas qu'il est le moins connu, mais le chapitre 15 parle de l'arrestation de Jésus et il passe devant que ce soit les tribunaux juifs, devant Pilate, et ensuite il y a la mort. Et on en parle beaucoup de ce chapitre-là et on le connaît relativement bien. Et ensuite le chapitre 16, c'est la résurrection, c'est le témoignage de sa résurrection, c'est Jésus qui va à la rencontre des disciples, etc. Et là aussi, en fait, on a une relativement bonne connaissance de ce qui se passe dans ce chapitre 16. Donc moi, j'ai voulu, en fait, mettre un petit accent sur le chapitre 14 et je vais vous dire en quoi j'ai été touché. Donc il y a six tableaux dans ce chapitre. Et je vais parler de trois tableaux, et notamment par exemple de 14, le passage, les versets 1 à 11. Les versets 1 à 11, c'est l'épisode de Marie qui vient donc casser son vase, et elle répand le parfum et elle embaume quelque part en fait Jésus. Vous voyez ce passage ? Oui, répondirent-ils, on le connaît. Est-ce que vous connaissez ce passage avec Marie qui vient, qui casse le vase et qui me répond ? C'est important que vous répondiez, c'est important que vous soyez avec moi, parce que c'est vous, nous allons vivre ensemble quelque chose. Donc, quand on voit ce passage-là, tout le monde dit, mais oui, c'est vrai, il y a eu Marie, il y a eu cela. Mais dans le même passage, les amis, dans le même passage, il y a la lutte des scribes et des notables qui veulent, en fait, quelque part, faire mourir Jésus déjà à ce moment-là. Vous voyez, vous vous rappelez, on est à 2 jours de Pâques, on n'est pas très loin de Pâques. Et donc, ils veulent tuer Jésus. Et il y a des complots qui se font à ce moment-là. Et tout ce que Jésus vit est critiqué. Et je vais vous dire une chose importante, c'est que tout ce que vous allez faire pour Jésus, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, va être critiqué. Si vous priez un petit peu trop, on va dire voilà, voilà, voilà. Si vous ne priez pas assez, on va dire ben voilà, c'est un chrétien qui ne prie pas beaucoup. Si vous annoncez la parole, vous allez être vraiment celui qui n'est pas dérangé, c'est qu'il ne dérange pas le diable. Celui qui passe inaperçu, celui qu'on va respecter, etc. C'est simplement en fait que, pourquoi je dis ça? Parce que dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc lui-même, il est dit que dès que vous vous occupez des affaires du Seigneur, vous allez susciter en fait quelque part la colère des autres. Voyez le dilemme dans lequel nous sommes. C'est que si nous sommes vraiment chrétiens, en fait on doit se préparer à être quoi? Critiqué, persécuté. Si on est chrétien, on va être, donc, alors assumons. Alors après tout, allons-y, parlons de lui. C'est le premier tableau. Mais en même temps, il y a Jésus. Et Jésus, lui, il va aussi vers la mort. C'est intéressant. D'un côté, les pharisiens et autres veulent le tuer, mais lui, il sait déjà qu'il va à la mort. Et lui, il se prépare à aller à la mort. Et eux, ils essaient de comploter pour le tuer, puis lui, en fait, il dit, mais je sais où je vais, mais je ne veux pas que ce soit eux qui me tuent par rapport à leurs intérêts, je veux mourir par rapport à la volonté du Père. Vous voyez, donc ça c'est le premier tableau, il y a pas mal de choses qui se passent là, et en même temps il est prophétique dans ce tableau, Jésus est prophétique parce qu'il parle aux pharisiens lorsque le vase a été cassé, il leur dit, mais ils n'entendent pas, il leur dit, cette femme s'occupe déjà finalement de mon embaumement. Donc quelque part, en fait, je suis en train d'aller à la mort. Mais ils n'ont pas entendu. Et nous-mêmes, quand on lit, on dit, mais on est tout ému, on est tout attristé pour ce Jésus qui dit, oh vraiment, mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors qu'en fait, lui-même dit, mais je suis venu pour cela. Ouvrons nos yeux spirituels quand nous lisons ces choses-là et remplissons-nous de ces vérités pour pouvoir être puissants les uns avec les autres, pour ne pas être dans l'attristement, pour pouvoir en fait discerner ce que Jésus est en train de faire et en fait non pas aider mais en fait surfer sur la vague et c'est-à-dire profiter de cette opportunité pour proclamer des choses. Le deuxième tableau, c'est dans le chapitre 14 toujours, les versets 12 à 31. Et là, il s'agit de quelques événements avant le jardin de Gethsémané. Bien évidemment, vous connaissez tous ce passage, c'est le repas. Hein, le repas, le jeudi saint, comme on dit des fois, c'est ce repas où Jésus, avec ses amis, vont dans la chambre haute. Vous voyez ce passage? Vous voyez, moi j'ai été interpellé par deux petites choses dans ce passage. Vraiment, tout ce que Jésus fait, il est étonnant. Il dit aux disciples, allez, parce que les disciples lui demandent où est-ce qu'on va passer la fête, le repas, etc. Et Jésus leur dit, allez à Jérusalem, et puis vous verrez un homme qui a, vous voyez, vous le suivez. Il aurait pu dire, mais donnez l'adresse, il aurait pu donner l'adresse. Il aurait pu dire, faites ça, 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 ça. Mais en fait, Jésus savait que les gens voulaient le tuer. Jésus n'avait pas encore fini sa mission auprès des disciples. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce que Judas était déjà dans le collimateur. Judas cherchait une opportunité.
Judas voulait, quelque part, transmettre à ceux qu'il avait, qui allaient le payer, lui transmettre les informations pour se dire où est-ce qu'il allait le prendre. Donc Jésus dit non, mais vous allez là-bas, vous suivez cet homme vous fera ceci et cela, vous demandez, et ils y vont. Est-ce que nous avons un esprit de stratégie? Oui, nous avons fait l'opération Jéricho. Yes. Alléluia! Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. L'opération... Mais écoutez, il y a des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues pour qu'on ne construise pas. Et même, mais pas parce qu'ils sont intéressés, mais parce qu'ils ne veulent pas d'église, là. Alors, ce tableau, donc, nous montre un Jésus stratège. J'aurais pu parler du moment où il mange avec eux, qu'il leur parle de l'amour qu'il a, etc. Mais regardez les petits détails qui font... Oh, tout d'un coup, on dit, tiens, c'est vrai. Pourquoi il n'a pas donné ces détails? Ah, donc il y avait un complot. Donc il y avait finalement une tension. Donc c'est intéressant, le procès que Jésus a eu là, hein, le dernier film. Il y a du suspense à lire les évangiles. C'est pas, oh oui, j'ai déjà lu. Non, relisez, regardez. Jésus est étonnant. Lors du repas, il annonce que quelqu'un va le trahir. Jésus annonce que Judas avait déjà la trahison dans son cœur. Mais il annonce, quelqu'un va me trahir. C'est étonnant. Il aurait pu dire, hé Judas, je sais que tu vas me trahir. Non, il annonce, quelqu'un va me trahir. Et puis, je me suis vraiment souvent demandé pourquoi Jésus n'avait pas dit à Judas, en fait, c'est toi le traître. Il aurait pu le faire. Mais en fait, Jésus, quelque part, et Dieu en Jésus, nous laisse le choix. Ce sont nos choix que nous vivons. Nous faisons le choix de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Il va venir dire, tu sais, je suis Jésus, je suis Dieu, aime-moi. Non, il a donné la trame de nos vies. Il a donné le canevas, l'espace dans lequel nous vivons. Et il nous dit, choisis. Choisis, tu es libre. J'ai compris en fait que son objectif était d'avertir Judas, afin que Judas lui-même cherche, demande. Et nous savons la suite. Judas n'a pas eu le courage. Judas s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Il n'a pas eu le courage de revenir et il a préféré se suicider. Un autre moment fort dans ce passage, c'est lorsque Jésus annonce à Pierre que ce dernier va le renier. Là aussi, je dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, Seigneur Jésus? Pourquoi est-ce que, quelque part, tu ne lui tends pas davantage la perche? Là aussi, en fait, Jésus, quand il dit, Pierre, avant que le coq chante deux fois, tu vas me renier, et il le dit très précisément, combien de fois? Avant qu'il chante deux fois le coq, toi, tu m'auras renié trois fois. Mais donc, il est averti, donc il pourrait réagir. Oui, il a réagi, il a dit « Non, pas moi !» Mais le problème, c'est que justement, dans notre nature, eh bien, nous avons tendance à réagir comme on sait. « Oh, tu sais, moi, je me mets toujours en colère. Je suis comme ça depuis 40 ans, je ne peux pas changer. » Au nom de Jésus, renie ta parole. « Oh, tu sais, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire une queue de poisson, tu vois. Je ne peux pas m'empêcher. » Mais non, on a la maîtrise de soi quelque part. C'est l'esprit du Seigneur qui est sur nous. Et nous devons changer. Nous ne devons pas laisser place à notre nature, à notre penchant naturel. Donc, Pierre, comme Judas, ont été... Jésus a tendu la perche. Et par négligence de leur part, ils ont raté le coche. Mais attention, comme je disais, ne critiquons pas Pierre, mais mettons le phare, le focus sur nous-mêmes et réalisons que combien nous sommes finalement semblables, autant à Pierre qu'à Judas. Parce que vous savez bien que Judas, ce n'était pas parce qu'il n'aimait pas Jésus qu'il l'a trahi. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas Jésus. C'est parce qu'il était plus du tout convaincu que Jésus était le Fils de Dieu. Lui, il voulait un sauveur pour la patrie. La nation. Il voulait quelqu'un qui vienne, en fait, entre guillemets, et on le dit en français, chasser les Romains. Il fallait que les Juifs redeviennent maîtres de leur territoire, etc. Et ils voulaient en fait un sauveur puissant. Et Jésus est venu comme un serviteur. Et Jésus est venu comme en fait... c'était pas ça qu'ils attendaient. Donc Judas, quelque part en fait, aimait, mais il a été trompé par. Par ailleurs, comment il en est arrivé à ça? Et je ne peux pas m'empêcher de le dire. C'est que Judas, vous savez, dès le départ, quand Jésus a choisi les 12, il a commencé à avoir un petit noyau avec lequel il avait une relation spéciale. Vous voyez? Quand il y a eu la transfiguration, il n'en a pris que quelques-uns avec lui. Quand il y a eu les miracles de la fille de Jaïrus, il n'a pris que quelques-uns. Alors imaginez les autres qui disent, et puis pourquoi pas moi? Judas était certainement dans cette équipe qui, au départ, ils ont été faire des grandes choses avec le Seigneur. Puis à un moment donné, en fait, ils se sentent mis à part. Et ils disent, mais pourquoi il ne m'a pas pris moi? Pourquoi c'est toujours Pierre? Pourquoi c'est toujours Jean? Pourquoi Jean peut venir s'approcher de lui et puis pas moi? Est-ce que ce n'est pas naturel pour nous, ça? Même dans nos familles, vous avez des enfants, des familles avec 3-4 enfants, et vous avez un enfant qui ose le plus soit aller vers papa, soit aller vers maman. Et les autres regardent en disant, ouais, de toute façon, il y a des chouchous, ouais, de toute façon, c'est lui que tu aimes. C'est notre réalité. Et à l'église, la même chose. Oh, mais le pasteur, il parle qu'à lui. Oh, mais le pasteur, il ne me voit même pas. Oh, mais le pasteur, quand on fait une réflexion, c'est toujours encensé un tel ou un tel. C'est notre nature. C'est à nous de réagir. Individuellement, à nous de réagir. Ensuite, les trois autres tableaux, je vais arrêter là avec ces tableaux. Les quatre autres tableaux, en fait, c'est simplement, d'une part, il y a l'arrestation de Jésus qui est extraordinaire. Extraordinaire. C'est un film. Vraiment, quand on voit Jésus qui répond, en fait, à la troupe qui vient le chercher, qui se lève, c'est Jean-Pierre, tu nous avais fait une prédication là-dessus. Quand il répond, il y a tout le monde qui tombe. Mais c'est... Oh. Le cinquième tableau, c'est Jésus devant le conseil des Juifs. Jésus qui... On lui dit, mais est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu? C'est comme si on disait, je prends l'exemple de Luc parce que je le connais mieux. Et Luc, mais est-ce que vraiment tu t'appelles Luc? Je suis ton père. Est-ce que vraiment tu t'appelles Luc? Non, mais Jésus ne dit rien au départ. Il dit rien parce qu'il dit, mais... Et il dit, mais en fait, tu me connais. Comment est-ce que tu m'appelles? Et tout le long, hein, ils sont là les uns et les autres. À quelque part, en fait, à nier l'identité de Jésus, à l'humilier. Et lui, il devrait dire, mais oui, je suis bien Jésus. Non, il dit, mais en fait, vous me connaissez. Tu l'as dit. Merci. Et puis le sixième tableau, c'est le reniement de Pierre. Bon, on en a un petit peu parlé, mais c'est extraordinaire quand Pierre réalise, en fait, voit que Jésus l'avait dit et il est tellement malheureux. Et nous, ben, de la même manière, quand on réalise en fait que Dieu voulait faire ceci avec nous et qu'on réalise en fait qu'on n'y est pas arrivé, mais on a honte, on se sent nul, on n'a pas envie de lever la tête, etc. etc. Voilà, donc ça c'est le chapitre 14 que je vous invite vraiment à relire, à vous approprier, à goûter en fait l'écriture, c'est tellement bon. Merci Seigneur pour ta parole. Je voudrais maintenant juste insister sur... le jardin de Gethsémané. Le jardin de Gethsémané, c'est toujours donc le chapitre 14, des versets 32 à 36. Et je vous le lis. Donc ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Au 37, il dit, « Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car il avait les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Ce qui m'a accompagné en fait tous ces temps, c'est en fait l'agonie par laquelle Jésus passe dans ce jardin de Gethsémané. C'est en fait l'intensité finalement quelque part du vécu de Jésus sur lequel souvent en fait on passe parce qu'on va jusque en fait au moment de l'arrestation et là on parle de beaucoup de choses. Hein. Jésus est passé par beaucoup de choses, etc. Mais le jardin de Gethsémané, c'est en fait quelque part en fait une lecture que l'on fait, je dirais, pas légèrement, mais on ne réalise pas la profondeur du combat par lequel Jésus passe à ce moment-là. Le Gethsémané, c'est en fait, en traduction d'ici, en clair, en français, c'est pressoir d'olives. C'est un jardin avec les oliviers, et il y avait un pressoir dans cet endroit-là, et on y préparait donc de l'huile d'olive. Lorsque les olives sont pressées, effectivement, on obtient de l'huile. Et Jésus, ce jour-là, est passé par des moments dont, vraiment, on peut dire quelque part, il a été pressé, comme le fruit olive a été pressé pour obtenir de l'huile. Il est passé par quelque chose où sa nature a été brisée. Son humanité, son côté charnel, a été renié par le Père. Il fallait qu'il aille à la mort, il fallait qu'il passe par des événements difficiles, et il le savait parce que, en tant que fils de Dieu, il savait vers quoi il allait, il savait les difficultés par lesquelles physiquement il allait passer, et il savait aussi les difficultés spirituelles par lesquelles il est passé. Il y a eu des souffrances physiques, il y a eu des souffrances spirituelles, et il y a eu des souffrances aussi au niveau de la spiritualité, des remises en question, il a été bafoué, humainement parlé. On s'est moqué de lui. Combien de fois il a dit, si tu es Dieu, dis-moi qui je suis qui t'ai frappé. Et il le voyait avant d'être passé par là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment serré le cœur. Et c'est pourquoi il dit lui-même à un moment donné, éloigne de moi cette coupe. Parce que humainement parlé, il voit ça et dit, mais je ne pourrais pas, Père. Je ne pourrais pas. Éloigne de moi cette coupe. Et puis, en même temps, droit après, il dit, mais pas ma volonté, Seigneur. Père, mais la tienne. On voit dans un PowerPoint là, Hébreux 5, verset 7. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Vous voyez, on est dans le livre des Hébreux, ils font référence à ce passage, et ils disent, quand il était dans la chair, quand il était en tant que fils naturel, homme, bien tout d'un coup, là, il ne veut pas mourir. Qui aujourd'hui voudrait mourir dans notre chair? Quand on est un peu malade, on veut guérir. Quand on lui dit, il vous reste 3 jours pour mourir, on dit non, on ne veut pas. Donc la chair ne veut pas mourir. Et Jésus ne fait pas, comment on pourrait dire ça? Il ne peut pas faire autrement, quelque part, dans son corps, que de désirer la vie. Ce qui m'a aussi un peu frappé, c'est qu'il dit dans le verset 14:33, il dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Moi, j'étais surpris par ce saisi de frayeur et d'angoisse parce que vous savez qu'on a eu une prédication sur Jésus qui calme la tempête. Oui, on a eu. Hein. Jésus calme la tempête et il dit aux disciples, de quoi avez-vous peur? Jésus, à plusieurs reprises, dit, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et dans ce passage, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a été saisi de... Lui, fils de Dieu, a été saisi de frayeur et d'angoisse. La frayeur, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'aujourd'hui, en français, on est en train d'utiliser des mots qui sont tous les plus... comment on pourrait dire ça? On n'a plus de profondeur dans ce qu'on dit. Et le terme frayeur, c'est frayeur, il y a la peur, il y a l'effroi, il y a tout un tas de choses. Quelqu'un qui a une frayeur, c'est qu'il a vu, un monstre ou il a vu l'horreur. Jésus a été saisi de frayeur et d'angoisse. Et l'angoisse, c'est la peur. Jésus, Fils de Dieu, rempli de frayeur et d'angoisse. Donc, on voit dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, les versets 44, il est dit « Étant en agonie, Jésus priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Ça veut dire, en fait, qu'il a eu une espèce de collapse, hein, à ce moment-là. Vous voyez ce que c'est qu'un collapse? Non. Il a été choqué. Son cœur a, quelque part, en fait, c'est un coup de sang. Et en fait, quand on a ce genre de choses, je me rappelle, ben voilà, je vais peut-être l'illustrer comme ça. Au Congo, il y a eu, donc, dans mon pays, du côté de Goma, il y a un parc national, un parc naturel. Et j'avais des amis belges qui étaient allés là-bas. Et en fait, ils n'avaient jamais vu des éléphants de près, etc., etc. Et les gens, ils étaient allés là-bas et puis ils voulaient faire un safari, etc. Puis à un moment donné, en fait, il y a un jeune, il avait 25 ans à cette époque-là. Comme à 25 ans, on a peur de rien, on veut aller partout, on veut toucher tout, on veut, etc. Et en fait, cet homme-là s'est retrouvé face à face avec un éléphant. Mais un éléphant qui était en train de marcher assez rapidement. Et en fait, il a eu un coup de cœur, un coup de sang, et ses cheveux, à 25 ans, sont devenus blancs. Il a eu des cheveux blancs à partir de 25 ans. Voilà, c'est juste pour vous illustrer cette histoire de Jésus qui dit, ben, il a eu, quelque part, en fait, des grumeaux de sang. C'est-à-dire que le corps, effectivement, lorsqu'il y a une grande frayeur, lorsqu'il y a une grande émotion, lorsqu'il y a quelque chose, en fait, qui est vraiment trop grand, en fait, le corps, à un moment donné, en fait, produit une action qui nous surprend. Et c'est là qu'on peut lire aussi d'une manière différente quand Jésus dit « La coupe qu'il était sur le point de boire, eh ben, elle représente les épreuves terribles qu'il allait devoir subir pour ôter le péché du monde. Il fallait qu'il passe par là et il le visualisait avant de pouvoir passer à travers. » Jésus savait par quelle souffrance il allait devoir passer. Et en tant qu'être humain, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne pouvait pas. Il a voulu reculer. Il a dit non, je ne peux pas. Mais en tant que fils de Dieu, il s'est repris. Il s'est repris parce qu'il y avait une mission à accomplir. Alors, je peux dire quelque part, en fait, que ce qu'il a vécu à ce moment-là, finalement, était aussi dur que ce qu'il a vécu droit après lorsqu'il a été arrêté. Jésus, il a supporté cette agonie de son plein gré. Il est allé lui-même à la mort. Il est allé lui-même se livrer. Il s'est rendu dans le jardin alors même qu'il savait. Il savait que Judas allait venir là. Il savait ce qu'il allait se passer après. S'il avait voulu, Jésus aurait pu déjouer le plan de Judas. S'il avait voulu, il aurait pu avoir une légion d'anges. S'il avait voulu, il aurait pu museler, parce qu'il l'a fait jusque-là. Il était au temple, les gens auraient pu l'arrêter. Il a été dans des endroits où il aurait pu se faire arrêter très facilement. Mais toujours, il est dit dans les évangiles qu'à un moment donné, il se redressait et il fendait la foule et personne ne pouvait le prendre. Donc, il a choisi le moment pour se livrer, c'est-à-dire à la Pâque. Et c'est vraiment délibérément qu'il est allé à la mort. Jésus supportera cette agonie avec la force d'en haut. Ça veut dire en fait qu'on le voit dans le chapitre, qu'à un moment donné, en fait, il prie et en fait, du haut du ciel, le Père lui envoie un ange pour l'aider. Du haut du ciel, le Père lui envoie un ange pour le soutenir. Ce n'est pas pour souffrir à sa place, mais c'est pour l'encourager à tenir bon et à continuer. Donc son père n'a pas écarté l'agonie de la croix, mais il le fortifiera d'une manière merveilleuse. On le voit dans Luc 22, 43, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et donc, lorsque les souffrances nous assaillent, eh bien, comment est-ce que nous réagissons? Eh bien, justement, on demande la prière des frères, des prières des sœurs. Eh bien, on réagit, en fait, par rapport à la souffrance, par rapport à la difficulté, on réagit en demandant de l'aide au ciel, au Père. Donc, la prière de Jésus, et je vais terminer avec cela, la prière de Jésus, eh bien, qu'il fit pendant, donc, alors qu'il était dans le jardin de Gethsémané, c'est une prière, finalement, où il demandait cette aide au Père. Il se mit à prier à trois reprises différentes pour que cette agonie lui fût, si possible, évitée. Il l'a prié. Puis d'un autre côté, il était parfaitement naturel que Jésus, eh bien, il veuille écarter, mais le fait même de passer par cette agonie lui faisait encore plus aspirer vers la délivrance. Parce que pour obtenir quelque part, en fait, le prix, eh bien, il fallait qu'il passe par cela. Et comme il est passé par la croix, il a été glorifié par le Père. Comme il est passé par ses épreuves et qu'il a résisté, qu'il a tenu bon et qu'il a finalement rempli le prix à payer pour notre rançon, le Père l'a élevé. Et il est aujourd'hui notre roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prophète. Il est roi, prophète et sacrificateur. Nous sommes dans l'Église sacrificateur par Jésus-Christ. Nous sommes dans l'Église roi par Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Si on est chrétien d'onction, on est aussi effectivement de cette nature. Mais si on est chrétien de nom, eh bien, en fait, on passe à côté de la réalité. Pourquoi? Parce que dans le ciel, les choses sont extraordinaires. Sur terre, les choses sont naturelles. Si on veut réaliser, résoudre les problèmes avec des solutions terrestres, eh bien, on ne va pas y arriver. Mais si on accueille le divin, le surnaturel de Dieu, qu'on le laisse entrer dans nos vies et qu'on l'exprime, alors on verra le surnaturel de Dieu dans nos vies. Ça veut dire en fait que lorsque le surnaturel de Dieu arrive, et puis que nous, on dit « Ah non, mais je ne veux pas entendre les langues, mais c'est du surnaturel de Dieu. Ah mais je ne veux pas, moi je veux bien louer le Seigneur, mais pas parler en langue. » Eh bien, en fait, on passe à côté du surnaturel et on passe à côté de ce que Dieu veut libérer au milieu de nous. Ah, une prophétie, je ne veux pas entendre, parce que sinon, on veut... voyez. Donc, si on veut le surnaturel de Dieu sur la terre, il faut qu'on soit prêt à vivre d'une manière surnaturelle, avec des langues, avec des miracles, avec des paroles sur le moment, avec etc., etc. Si on veut vivre quelque chose de naturel, propre comme nous on veut, clair comme nous on veut, ben on n'a pas besoin de Dieu. Seigneur, merci. Alors je terminais, donc je disais, on va terminer avec les trois questions à vous poser, avec lesquelles vous allez continuer un tout petit peu. On aura, voilà. Sommes-nous à l'écoute du Saint-Esprit et des avertissements qu'il nous donne? Par rapport, je pensais à Judas qui a été averti. Pierre a été averti. Les disciples dans le jardin, ils ont été avertis. Le Seigneur a dit, asseyez-vous là, éveillez, restez éveillés. Ils ont été avertis, mais ils se sont endormis. Mais heureusement, Jésus était là, il a prié pour. Jésus intercède. Il est notre intercesseur au ciel. Il prie pour nous, il intercède. Et parce qu'il intercède, on peut revenir, comme il a fait revenir Pierre. Pierre a demandé pardon trois fois, et il a remis en piste. Première question, sommes-nous à l'écoute du Saint-Esprit? Deuxième question, et nous, est-ce que l'agonie de Jésus à Gethsémané et à la croix nous inspire? Parce que on est souvent dit, oh, pourquoi il a souffert comme ça, c'est malheureux, etc. Non, il fallait qu'il souffre comme ça pour en rançon pour plusieurs. Notre humiliation, votre humiliation, le fait qu'on se moque de vous, que ceci et que cela, frappe d'autres. Et lorsque les autres sont frappés, ils vont revenir au Seigneur par ce qu'ils ont vu qu'on a fait sur vous. Troisième question, est-ce que de savoir ce que la Bible nous dit nous donne envie de rester vigilants? Est-ce que ça nous donne envie de rester vigilants? Ça nous donne envie de prier? Est-ce que ça nous donne envie d'intercéder? Ou au contraire, on dit, oh, c'est trop grand. Oh, il faut encore prier. Oh, il faut encore aller en réunion. Oh, il faut encore faire cela. Non. Si c'est comme ça, effectivement, non, non. Mais la parole de Dieu, quand je relis l'évangile de Marc, je me dis, mais Seigneur, c'est vrai qu'il faudrait que j'aille parler. Il faudrait que j'aille répondre. Il faudrait que je prie pour la guérison. Il faudrait que je fasse un effort là pour... Alléluia. Eh bien, Seigneur, voilà, j'ai donné le message et je vous laisse avec ces paroles. Je sais que j'ai bien prêché. Je sais que j'ai bien prêché. Pourquoi? Parce que je n'ai parlé que de la parole de Dieu. Et que cette parole de Dieu, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole que Jésus a laissée. Et que cette parole, elle va travailler en chacun de vos cœurs. Et on verra maintenant les fruits, parce que lorsqu'on sème, eh bien on s'attend à une récolte. Vous n'avez pas d'agriculteur qui sème sans attendre quoi que ce soit. Si on sème, c'est qu'on veut voir une récolte. Eh bien, Seigneur, moi je proclame que la récolte à Carouge, elle va être bonne. Amen.